Donc voilà, c'est le premier épisode. Là, il y a un autre personnage qui succède, mais je trouve que ça vous donne une idée un peu du type, en tout cas, de travail que tente de faire Magneto, donc d'une manière un petit peu détournée de quand même traduire certains rapports de domination, de faire apparaître certains rapports de violence. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose dans le montage, des fois, qui s'apparente un peu à la part d'analyse du sociologue. Ce matin, on se demandait est-ce que la prise de son ou le montage quelle est la première écriture au fond. Je les trouve assez différentes. Je suis d'accord que c'est deux formes d'écriture, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose comme une pensée qui se déploie dans le montage, peut-être aussi simplement parce que la prise de son est pas mon métier. Mais qui est assez importante, c'est là où transparaît un peu la pensée de l'auteur et dans la prise de son, j'en conviens bien. Et c'est cette tentative-là, je trouve qu'on sent qu'il y a un auteur derrière, qu'on sent qu'on parvient à transcrire des idées vraiment en son. En faisant entendre aussi l'épisode sur Mégantic, donc les travaux et les jours, je voulais mettre un petit peu de l'avant cette volonté aussi de la traduction comme quand même une question, je trouve, ou une bataille importante, en tout cas chez nous au Québec. Je ne sais pas exactement en quel terme elle peut jouer chez vous, mais essayer de dire autrement dans la langue, dans des langues de traduction, ce qui n'a pas été forcément dit au départ. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de faire témoigner les gens de ce qu'ils vivent. Bien sûr, c'est ce qu'on fait aussi. On leur demande de se mettre en récit parfois dans nos projets. Mais il y a comme quelque chose qui, un peu à la manière d'une traduction, dépasse le témoignage qu'ils ont pu en faire. Il y avait une phrase de Brodsky que je trouvais vraiment belle. Il disait « L'original est toujours la somme de ses traductions. » Et je trouve qu'il y a un petit peu de ce rôle-là dans le fait de récolter la parole et ensuite de la travailler. Parfois, j'ai l'impression qu'on peut se rapprocher encore davantage de ce que la personne cherchait à dire. Et c'est là où vraiment, pour moi, on peut faire apparaître des choses qui étaient peut-être aussi en filigrane du discours, qui n'étaient pas nommées exactement de cette manière-là, mais qui peuvent trouver une traduction, en fait, dans le montage et dans la pensée de l'auteur, et donc ouvrir peut-être sur des formes d'émancipation. Et donc c'est important, je trouve que c'est un geste politique, la traduction, qui est urgent. Donc trouver des façons de traduire ce que les gens vivent, de médier du sens, des mondes dont on peut mesurer même l'étrangeté, mais de trouver des façons de faire entendre des formes de langage, des formes de parole qui sont aussi donc des formes de vie. La question des formes de vie, évidemment, est une question politique. Donc, tout ça apparaît important. Et puis, je trouve qu'il y a aussi cette possibilité-là, peut-être qui se referme avec le podcast, mais enfin, on ne sait plus trop c'est quoi le podcast de toute façon. Il y a quelque chose dans le fait de laisser aux gens leur langage, de ne pas les enfermer dans un langage, de ne pas les enfermer dans la communication qui se déploie dans la création radiophonique, je trouve particulièrement, et qui pour moi est déjà quelque chose comme d'émancipateur ou une prise de position qui est importante. Les gens peuvent dire « je », les gens peuvent se découvrir, même écrivain. Hier, je me souviens, on se disait, mais les écrivains se sont un peu absentés peut-être de la création radiophonique, ce que je trouve bien, peut-être l'un des avantages du podcast, ou enfin, peut-être uniquement au Québec, mais c'est qu'on découvre des écrivains en dehors de la littérature aussi, et il y a la possibilité d'écrire à plusieurs, donc ça c'est bien aussi, je trouve que c'est tout dans la démarche, en tout cas, il y a aussi quelque chose comme une forme d'émancipation, il y a quelque chose qui est propre aussi à la création radio. Évidemment, ça ouvre plein de questions et des voies pour des recherches supplémentaires, mais je trouve que c'est vraiment là où nous, en tout cas, on a considéré qu'il y avait un travail à faire, c'est-à-dire sur le plan des imaginaires, entre autres, ouvrir à travers la radio des possibles, oui, en amenant de la critique sociale, en amenant certains objets où se croisent, esthétique, politique, affect, raison, mais qui en même temps sont toujours portés quand même par nourrir des imaginaires, nourrir des désirs, nourrir des volontés ou des possibilités de se dire que le monde peut être différent, qu'on peut vivre dans un autre monde, que c'est pas qu'on n'est pas obligé de participer à ce monde-là, et donc de faire des créations qui participent déjà à faire advenir d'autres formes de monde possibles, à la hauteur évidemment de nos moyens, mais qui nous laissent quand même Ouais, j'avais pris en note une petite citation de la cinéaste Céline Sciamma qui disait que la question des imaginaires est fondamentale et que les documentaires sonores, évidemment, parlaient du cinéma dans son cas, les beaux parmi eux doivent avancer comme des questions et nous laisser dans une forme d'intranquillité, comme nos désirs les plus profonds. Donc, je trouve que ces éléments-là, effectivement, la question des imaginaires, travailler sur la question des imaginaires, c'est assez intéressant. En radio, parce qu'il y a encore beaucoup de possibilités à explorer de ce côté-là pour continuer quand même d'essayer d'avoir une certaine incidence dans le monde. Il ne s'agit pas de faire la radio comme si la création radio, comme si on était extérieur, mais bien justement, je trouve de se demander à quel type de monde on participe aussi, faisant ce qu'on est en train de faire, donnant la parole aux gens à qui on donne la parole, faisant le montage, choisissant de faire le montage qu'on est en train d'imaginer. Enfin, il y a vraiment des incidences sur les mondes possibles.